part avec deux amis pour New York et elle ne reviendra au Mexique qu'après la fin de la liaison entre sa sœur et son mari, donc à la fin de l'année.
Voilà, bah oui, faut pas exagérer quand même.
Ouais, ouais, là c'est, on touche pas à la famille quand même.
Voilà. Donc allez, une autre petite chanson.
Ay, qué bonito es volar. Y a las dos de la mañana. Y a las dos de la mañana. Y ay, qué bonito es volar, ay mamá. Volar y dejarse caer en los brazos de tu hermana. En los brazos de tu hermana. Hasta quisiera llorar. Me agarra la bronca, me lleva al cuartel. Me vuelve maceta, me da de comer. Me agarra la bronca, me lleva al cerrito. Me siente en sus piernas, me da de besito. Ay, dígame, ay, dígame, ay, dígame usted. ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna no ve. ¿Quién con pretensiones le chupa de usted? Y ahora sí, maldita bruja. Ya te chupaste a mi hijo. Ya te chupaste a mi hijo. Y ahora sí, maldita bruja. Y ahora le vas a chupar. Y a tu marido el ombligo. Y a tu marido el ombligo. Y ahora le vas a chupar.
Donc, en janvier 1937, le président Lázaro Cárdenas del Río accorde, conformément à ses pouvoirs constitutionnels, l'asile politique à Léon Trotsky. Alors, sa femme et lui sont accueillis par Frida et Diego à la Casa Azul, donc la Maison Bleue. Hein. Une brève liaison, que l'on dit passionnée, se développe entre Trotsky et Frida Kahlo. À la fin de cette aventure, l'artiste lui offre affectueusement, pour son anniversaire, le 7 novembre 1937, un autoportrait dédié à Léon Trotsky ou Entre les rideaux, où elle se montre sous son meilleur jour avec une dédicace. Pour Léon Trotsky, je dédicace cette peinture avec tout mon amour. Alors en septembre 1938, André Breton est envoyé à Mexico par le ministère des Affaires étrangères français pour y prononcer une série de conférences sur l'état de la poésie et de la peinture en Europe. Et donc il vient avec sa femme Jacqueline Lamba. Alors Breton, il est accueilli à Mexico par le couple Kahlo-Rivera. Et là, tout de suite, Breton est subjugué par Frida Kahlo et admiratif de sa peinture et écrit « L'art de Frida Kahlo de Rivera est un ruban autour d'une bombe ». Carrément. Et alors que Breton l'exaspère, Kahlo noue une véritable et profonde amitié avec sa femme, Jacqueline Lamba. Mais Frida Kahlo se défend d'être surréaliste. Elle dit « On me prenait pour une surréaliste, ce n'est pas juste. Je n'ai jamais peint de rêve. Ce que j'ai représenté était ma réalité. » Alors au début du mois de novembre 1938, elle présente ses œuvres dans la galerie de Julien Lévy à New York. Et la moitié des 25 œuvres présentées y sont vendues. Et pendant son séjour, elle a une liaison avec le photographe Nicolas Muret. Enfin, on parle de quelques liaisons comme ça, mais elle en a eu beaucoup de sa vie, avec des gens plus ou moins célèbres d'ailleurs. Hein, voilà, elle n'était pas...
Alors, elle va partir en France aussi, à Paris, puisque, bon, après avoir rencontré André Breton et sa femme, elle va partir à Paris, elle arrive en 1939 en France. Le peintre surréaliste l'avait invitée pour se rendre à l'exposition Mexique organisée à la galerie Renoux École. Elle loge donc chez les Bretons et rencontre les peintres Yves Tanguy, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky, enfin voilà quoi.
Le beau monde.
Du gratin. Mais effectivement, elle aime pas Paris. Elle trouve que Paris, c'est sale. La nourriture ne lui convient pas. Elle attrape une colibacillose. L'exposition lui déplaît. Son avis est que l'exposition est envahie par ces bandes de fils de pute lunatiques que sont les surréalistes.
Elle mâche pas ses mots en général.
Non, elle est assez hard.
Assez cash.
Cash. Elle trouve superflue toute cette saloperie exposée autour du Mexique. Elle reconnaît pas son pays, quoi. Par-dessus le marché, l'associé de Pierre Cole refuse d'exposer toutes les œuvres de Frida Kahlo dans sa galerie. Il n'en retient que 6 sur les 27 qu'elle espérer
exposer.
En effet, Pierre Cole est choqué par la crudité des tableaux, en fait. Et elle n'apprécie pas tellement non plus le regard que Breton, qu'elle juge prétentieux, porte sur son art. Elle a un peu le sentiment que la façon dont il parle de son art, c'est un peu teinté de mépris et d'incompréhension. Par contre, elle se console auprès de la femme de Breton, donc Jacqueline, avec qui elle a une liaison. Toutefois, elle se voit offrir une paire de boucles d'oreilles en forme de main d'ivoire par Picasso. Le Louvre lui achète l'un de ses autoportraits et Elsa Schiaparelli crée une robe en son honneur. La robe s'appellera Madame Rivera.
Voilà,
c'est beau.
Donc c'est bon. Elle a quand même une reconnaissance par certains artistes. Alors une autre petite musique. Alors en décembre 1938, Frida et Diego divorcent. Voilà. Elle ressent de grandes douleurs dans la colonne vertébrale et contacte une mycose aiguë à la main droite. Elle a pas de chance, elle accumule tous les malheurs. Et en septembre 1940, elle se rend à San Francisco pour être soignée par le docteur Elosser. Pour le remercier de ses soins, elle peint pour lui un autoportrait dédié au docteur Elosser. Le tableau porte en dédicace « J'ai peint mon portrait en 1940 pour le docteur Elosser, mon médecin et meilleur ami, avec toute mon affection, Frida Kahlo ». Alors, il faut savoir que la plupart des tableaux qu'elle a peints, elle va les donner en fait en remerciement pour diverses choses. Alors Diego Rivera est également à San Francisco à la même époque et il propose à Frida Kahlo de l'épouser de nouveau. Elle accepte et le second mariage a lieu à San Francisco le 8 décembre 1940. Bon, ils n'ont pas été divorcés longtemps. Hein. Jour de l'anniversaire de Diego. Il s'installe donc dans la Casa Azul à Coyoacán après la mort du père de Frida Kahlo. Et en 1942, l'artiste va commencer son journal où elle commente son enfance, sa jeunesse et sa vie. La même année, elle est élue membre du Seminario de Cultura Mexicana, organisation créée par le ministre des Affaires culturelles et composée de 25 artistes et intellectuels. Elle a pour mission d'encourager la diffusion de la culture mexicaine en organisant des expositions, des conférences et des publications d'ouvrages. En 1943, elle dirige une classe de peinture à l'Académie des Beaux-Arts. Mais sa mauvaise santé l'oblige à enseigner chez elle. Des douleurs permanentes dans le pied droit et dans le dos l'empêchent de marcher correctement. Elle doit porter un corset de fer qu'on retrouve dans sa peinture La colonne brisée. En juin 1946, elle subit une opération de la colonne vertébrale qui lui laisse deux immenses cicatrices dans le bas du dos.
Ouais, ça reste très compliqué effectivement au niveau de sa santé. Et par exemple, à la fin des années 1940, son état s'est aggravé soudainement et elle entre en 1950 à l'hôpital ABC de Mexico. Elle y reste 9 mois. Sa nouvelle opération de la colonne vertébrale se complique d'une inflammation qui impose une troisième opération. Et ce n'est qu'au bout de la sixième, finalement, sur un total de 7, qu'elle peut se remettre à peindre tout en restant couchée. Donc en plus, ça a été des mois sans pouvoir peindre. Alors bon, ça a dû être très long. Au printemps 1953, la photographe Lola Alvarez Bravo organise la première expo monographique de Frida Kahlo au Mexique. Frida Kahlo rédige elle-même des invitations pour l'occasion. Ses médecins lui interdisant de se déplacer sont liés à baldaquin et transportés et installés à la galerie. Donc elle arrive en ambulance pour participer au vernissage, couchée sur un brancard. Elle est portée jusqu'à son lit et après les gens, elle trône au milieu de la foule.
Elle avait le sens de la mise en scène.
Je pense qu'elle avait quand même un grand sens de la mise en scène. Alors c'est un succès hein, pour l'artiste et on salue sa présence autant que son courage, autant que la qualité de ses tableaux. José Moreno Villa écrit « Il est impossible de séparer la vie et l'œuvre de cette singulière personne. Ses peintures constituent sa biographie. »
Bah oui. Oui, parce qu'elle peint tous les événements marquants de sa vie.
En 1954, elle va peindre l'un de ses derniers tableaux, autoportrait avec Staline, voilà, c'est vraiment un de ses derniers.
Allez, une autre petite musique.
Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen te crió. Llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste.
No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste. No dejaré de quererte, llorona, aunque la vida me cueste.
Alors, son œuvre comporte 143 tableaux, enfin de ceux qu'on a retrouvés, parce qu'apparemment, il y en a plein qui ont disparu. Très souvent de petits formats. un certain nombre ayant été peints alors qu'elle était alitée, dont 55 dans autoportrait, témoignant souvent de sa souffrance physique et morale. Par exemple, comme l'hôpital Henri Ford en 1932, Sans espoir en 1945. Alors seule aussi ou en compagnie d'animaux.
Il y a beaucoup, elle avait beaucoup d'animaux. Elle.
De portraits, voilà, avec ses perroquets, un petit singe.
Elle a même eu un cerf.
Voilà.
Pas banal.
Et voilà. Et parfois, comment aussi des, il y a quelques portraits de famille. Mais donc l'autoportrait a une place très importante hein, dans son œuvre. Donc à peu près donc 55. En se mettant elle-même en scène, elle exprime ses souffrances. Hein, sa peinture devient le porte-parole de sa douleur. Alors, hors de question pour elle de masquer ses angoisses qui font partie intégrante de sa vie. D'autres artistes, à l'image de Van Gogh, par exemple, ou de Rembrandt, se sont aussi représentés dans des conditions extrêmes, ne laissant aucun doute sur leur santé mentale fragile. Frida Kahlo arbore généralement la même émotion dans ses autoportraits. Assez lointaine, droite, elle ne laisse transparaître aucune courbe dans les traits. Ce n'est pas anodin, hein, car elle déteste son sourire et sa denture. Et pour cette raison, elle ne se représente jamais avec une esquisse de sourire hein, au coin des lèvres. L'ensemble de ses toiles sont empreintes de la culture mexicaine, souvent avec des tenues traditionnelles, des bijoux locaux et aussi des portraits d'indigènes
C'est assez dans coloré.
Rediffusion d'une émission Principe Actif. Une rediff, quoi.
Bah écoute, on va peut-être parler un petit peu de bah, cette fin de vie qui est quand même très difficile. Et alors qu'elle est encore assez jeune. En août 1953, on l'ampute de la jambe droite jusqu'au genou à cause d'une gangrène, ce qui apaise ses souffrances, mais ce qui la plonge dans une profonde dépression. Elle dit « On m'a amputé la jambe il y a 6 mois qui me paraissent une torture séculaire et quelquefois j'ai presque perdu la tête. J'ai toujours envie de me suicider. » Seul Diego m'en empêche, car je m'imagine que je pourrais lui manquer. Il me l'a dit et je le crois. Mais jamais de toute ma vie, je n'ai souffert davantage. J'attendrai encore un peu. Ça, c'est dans son journal, parce qu'elle faisait son journal aussi, qui est d'ailleurs très... avec des dessins, très beau. Voilà, donc ça, c'était écrit dans son journal en février 1954. Elle attrape une grave pneumonie et elle va mourir en fait dans la nuit du 13 juillet 1954, 7 jours après son 47e anniversaire. Officiellement, on dit qu'elle a fait une embolie pulmonaire. Cependant, selon Haydn Herrera, les derniers mots de son journal, elle dit, elle écrit « J'espère que la sortie sera joyeuse ». Et j'espère bien ne jamais revenir, Frida. Et le dernier dessin suggère finalement qu'elle se serait suicidée. Elle affirme d'ailleurs que certains de ses amis ont cru que sa mort était due à une surdose de médicaments. Et il y a un doute sur...
Oui, c'était peut-être pas accidentel.
Voilà. Au cœur de son dernier tableau, peint vraiment juste avant de mourir, elle a pourtant écrit « Viva la vida ».« Vive la vie », je traduis. S'est-elle suicidée ou pas? On n'en sait trop rien. Enfin, elle était très malade,
oui,
de toute façon.
Ça peut se comprendre qu'avec les souffrances qu'elle avait, qu'elle ait pu...
Possible, mais enfin bon, ça reste une question. Elle est incinérée le 14 juillet parce que c'est ce qu'elle voulait. Elle ne voulait pas être enterrée couchée parce qu'elle avait passé trop de temps couchée. Donc elle ne voulait pas être allongée dans une sépulture. Et ses cendres reposent dans la Casa Azul de Coyoacán sur son lit dans une urne qui a la forme de son visage. Bon. Toujours beaucoup de mise en scène.
Oui, c'était...
Enfin bon, voilà.
Alors, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film Frida, réalisé par Julie Taymor en 2002, avec Salma Hayek hein, dans le rôle de Frida et Alfred Molina dans le rôle de Diego Rivera.
Señor Rivera. Rivera.
J'ai pas fait gaffe.
Qui es-tu, toi? Qu'est-ce que tu veux?
Il faut que je vous parle de quelque chose d'important.
Oh, d'accord, tu peux monter.
Non, descendez plutôt. Écoutez, je suis pas venue ici pour rire ni flirter. Si je n'ai pas le talent qu'il faut, je devrais faire autrement pour aider mes parents.
L'ego n'a jamais appartenu à personne. C'est le meilleur des amis et c'est le pire des maris.
Attends, si tu crois que je vais coucher avec toi parce que tu m'as prise sous ton aile, tu as tort.
Écoute, je baignais mes fresques et je me défolais en paix avant que tu ne te pointes. On n'a plus qu'à se marier tous les deux.
Tu crois pas au mariage?
Tu plaisantes? J'ai même déjà eu deux femmes.
À Diego et Frida.
Vous êtes peintre aussi, Madame Rivera?
J'ai plus le temps.
Elle est bien meilleure que moi. Vous verrez.
Tu m'as promis d'être loyale.
J'aime vos peintures.
Frida, mais pourquoi lui?
Parce qu'on le voulait tous les deux.
Ça me brise le cœur, Frida.
Ça fait mal, hein?
Salma Hayek, Alfred Molina, Antonio Banderas, Valeria Golino, Ashley Jude, Maya Maestro, Edward Norton et Geoffrey Rush.
Afrina!
Afrina!
Donc, voilà. Donc, alors, suite, c'est un beau film d'ailleurs. Et de,
oui,
voilà,
oui, bon. Oui. Alors, les couleurs sont belles.
Voilà, c'est ça. On voit la jolie maison bleue.
Ouais.
Alors, suite au décès de Frida Kahlo, son mari, Diego Rivera, donc fait sceller une pièce de leur maison. Cette pièce est restée fermée pendant 50 ans. Elle a seulement été ouverte pardon, en 2004. Derrière cette porte étaient réunis plus de 300 objets personnels de Frida, ses robes... les huilpiles brodées, vous savez, c'est les petits caracos en haut là, les robezos, les costumes traditionnels, donc ses bijoux en jade, corail et argent, ses fards et flacons de parfum, ses corsets qu'elle avait peints à la main, ses prothèses, ainsi que plus de 6000 photos et 12 000 documents divers. Alors, en 2018, à Londres, le Victoria and Albert Museum expose une grande partie de ses objets, amenant une foule considérable. Et à Paris également, cette exposition a eu lieu au Palais Galliera en 2023. J'y suis allée.
C'est bien, pas moi.
Alors, c'est vrai que ça fait bizarre de voir tous ces corsets.
Alors c'est une véritable icône de beauté,
oui, bah
quand
oui,
même,
oui,
aussi, parce qu'on parle de ses tableaux, on parle de ses maladies, mais elle était quand même très très belle, hein. Elle était assez avant-gardiste, enfin, c'était genre femme forte, une muse, un modèle d'engagement, et c'est devenu une source d'inspiration pour bon nombre d'artistes et de stylistes. Elle a même posé pour Vogue, enfin... Son visage est une œuvre d'art à part entière. Elle conçoit elle-même ses coiffures, qu'elle orne de brins de laine, de rubans colorés et de fleurs. Les lèvres rouges, le mono-sourcil qu'elle accentue même sur les peintures. Bon, voilà, personne n'est indifférent devant cette allure si travaillée. Elle questionne aussi les femmes et leur rapport au corps, d'abord le sien, qui a été mutilée à jamais, l'empêchant même d'avoir un jour des enfants. Et on peut dire que c'est une référence de la mode au niveau internationaliste. International, je ne sais pas pourquoi j'ai internationaliste. C'est parce que c'est une militante.
Voilà, c'est ça.
Le style vestimentaire de Frida Kahlo reflète son attachement à la culture de son pays, son goût pour la couleur et son art de la parure. Son vestiaire est surtout composé de pièces très traditionnelles, en fait, de robes de Tehuana, de coiffes. Bon, après, le style va évoluer un peu, elle va mêler un peu plus vêtements traditionnels et pièces étrangères. En tout cas, son apparence vestimentaire est pour Frida Kahlo un moyen de s'exprimer et d'étendre son art. C'est vrai qu'il y a vraiment une continuité entre les tableaux et son allure. Enfin, elle refuse également de masquer ses traits un peu masculins, Et elle choisit de s'habiller en costume comme un homme sur les portraits de famille, contrairement aux autres femmes. Mais en fait, voilà, elle aime bien aussi se farder, porter des bijoux. Donc, des créateurs de mode s'en inspirent. En 1998, Jean-Paul Gaultier lui consacre carrément une collection entière. Alessandro Michel, directeur de la création chez Gucci, s'en inspire aussi lors de la nouvelle campagne de la marque. Riccardo Tisci lui rend hommage dans la collection haute couture de Givenchy en 2010. En 2018, Dolce Gabbana présente un défilé haute couture à Mexico aux couleurs de Frida Kahlo. Lors du défilé de prêt-à-porter de 2010, Moschino se réfère clairement à la panoplie de Frida Kahlo. Et bon, il y a de nombreux autres défilés qui sont inspirés du style de l'art des robes colorées de Frida Kahlo.
Voilà. Et moi, dans l'exposition que j'avais vue aussi, en fait, elle avait toute une collection de robes qu'elle n'a jamais portées, mais qui étaient des robes qu'elle faisait venir de Paris et tout ça, mm-hmm. et qui étaient des très belles robes, quoi. Enfin, des, voilà. Et donc, elle avait vraiment cette âme un peu de collectionneuse, quoi, mm-hmm. parce que du coup, c'était des robes de haute couture, bon, qu'elle n'a jamais portées, mais qu'elle avait dans son, ouais. dans son dressing, quoi. Alors, un dernier petit morceau.
Burning Bed.
Voilà, c'était le dernier morceau du film qui s'appelle donc Burning Bed. Hein, c'est quand, à la mort de Frida Kahlo, on voit le lit s'enflammer et partir voilà, dans les airs. Alors, bon, ce qu'on disait, on en a dit un mot un peu tout à l'heure, hein, c'est que la fille, la petite fille et l'arrière-petite fille de Christina Kahlo, la sœur donc de Frida Kahlo, ont fondé en 2007 la compagnie Frida Kahlo Corporation, qui gère les droits d'auteur hérités de Frida Kahlo et la promotion de l'image de l'artiste. Alors son nom, sa signature et son visage sont déposés par sa famille. Cette entreprise délivre des licences d'exploitation commerciale de la marque déposée Frida Kahlo au tarif de 2 à 5% du prix de vente. Alors bon, son image est quand même un peu surexploitée. Frida Kahlo suscite un véritable engouement commercial. Des milliers d'objets estampillés Frida Kahlo sont proposés sur des sites marchands.
Oui.
Donc enfin voilà, il y a tout quoi, là, du stylo bille, à la tasse,
la trousse, les chaussettes,
voilà.
Et les coques de téléphone,
voilà.
Un truc, calendrier, éventail, n'importe
alors,
quoi.
En 2018, d'ailleurs, la commercialisation d'une Barbie à l'effigie de Frida Kahlo donne lieu à un procès entre la société californienne Mattel et la famille de Frida Kahlo. Alors, cette Frida Mania est donc un sujet de controverse, hein, parce que l'image de Frida Kahlo est parfois contradictoire avec les valeurs et la vie de l'artiste, et déclare la journaliste Léa Lejeune dans son ouvrage Féminisme Washing. Voilà. Bah, c'est vrai que je pense qu'elle aurait été tout à fait contre cette exploitation de son image.
Bah, voilà. c'était pas trop son style.
Mais bon, ça profite à sa famille.
Voilà, au moins ils n'ont pas. Leur travail, c'est de gérer l'image de Frida.
Bon, je ne sais pas s'ils la gèrent très bien, mais.
Bah, probablement quand même. Hein.
Oui, ça leur rapporte. Voilà. Bon, et ben, j'espère que